Bien, pour ce second tour de notre table ronde, j'ai donc le plaisir de devoir dialoguer avec Eduardo Berti et ensuite de passer la parole à Maxime Decoux. J'explique en 15 secondes comment les choses vont se passer. Premier temps, un dialogue. Nous l'avons voulu ainsi, nous l'avons préparé. Et puis ensuite, une intervention pas formelle, pas académique, mais une intervention en bonne et due forme présentée par Maxime Decoux. Nous commençons donc par ce dialogue. Alors, il se trouve que nous avons la chance, à Bordeaux, d'avoir un écrivain, membre de l'Oulipo, qui vit à Bordeaux depuis maintenant plusieurs années. Cet écrivain, c'est Eduardo Berti. Il se trouve que, Eduardo, vous êtes né en Argentine. Sauf erreur de ma part, vous me reprenez si je me trompe, vous avez quitté votre pays pour Paris en 1998. Vous êtes installé, après quelques temps à Paris, à Madrid. Vous avez séjourné en Espagne une dizaine d'années. Vous avez publié votre premier roman, dont le titre français est « Le désordre électrique », en 1998.
97, je crois, oui.
97, 98, oui, oui. J'ai peut-être pris la traduction, 98.
Oui, c'est ça.
Bon. Vous avez rejoint l'Oulipo en 2014. Vous pourriez me reprendre, parce que je viens de dire, vous avez rejoint. On vous a coopté.
Oui.
Nous allons revenir.
J'étais pas très attentif.
Nous allons revenir sur cette... Et désormais, vous vivez à Bordeaux. Vous écrivez plutôt en espagnol, mais pas exclusivement. Vous ne vous traduisez pas, ou très peu, que très peu. C'est cela.
Oui.
Et j'avoue que j'ai un peu peur de dialoguer avec vous, parce que...
Ouais, je suis sympa.
Alors, et j'espère, parce que dans un livre, je vais le montrer, et nous allons en parler à plusieurs reprises, « Un père étranger », un livre qui m'a bouleversé, je vous l'ai dit. Je n'ai pas attendu cet après-midi pour formuler cette impression de lecture. Vous écrivez ceci. « La vérité est que je déteste prendre l'avion, mais je ne le dis pas devant eux. » Vous parlez des Roumains. « Tout comme je déteste faire des causeries ou des conférences sur des sujets qui, pour comble, ne m'inspirent absolument pas. » Alors, vous êtes un garçon poli et j'ai très, très peur que, en fait, vous ayez accepté notre invitation alors que le sujet ne vous inspire pas du tout.
Non, bien sûr que parler de l'Oulipo, parler de Pérec, parler d'Hervé Le Tellier, ça m'inspire énormément. Non, ça, c'est le problème, c'est que les Roumains, c'est un narrateur, c'est pas moi, c'est un double quand même. Il faut faire toujours la différence entre le narrateur et l'auteur, même si c'est le narrateur le plus proche de moi, de tout le narrateur de... Des mon œuvre, on va le dire comme ça. Ça semble un peu prétentieux. Mais lui, il est invité à faire une conférence qu'il n'aime pas faire. Ça, c'est la différence. Ici, c'est un plaisir d'être ici.
Alors, évidemment, vous avez raison de me reprendre. L'auteur, ce n'est pas le narrateur. Mais il y a parfois des liens très solides qui peuvent à la fois être solides et poreux. Et j'ai envie de vous demander, après avoir lu Un père étranger et votre dernier ouvrage, qui est sorti il y a quelques semaines, Un fils étranger, on en reparlera aussi. Un fils étranger, c'est peut-être une sorte d'extension d'Un père étranger.
Mais c'est ça le mot. C'est
extension ?
C'est une extension, une prolongation, oui. Un écho, oui.
Bon, un écho notamment déclenché par des documents que vous avez reçus.
Oui, en fait... Un père étranger mélange des éléments des fictions avec des éléments de la biographie de la famille, de ma famille, mais surtout de l'histoire de mon père. Et quand j'ai publié Un père étranger la première fois, c'est-à-dire quand j'ai publié la version en espagnol, il y a quelques années déjà, j'étais convaincu d'avoir bouclé tout ce que j'avais à dire autour de l'histoire de mon père. Y compris tout ce que je ne savais pas. C'est un livre fait aussi de tout ce que je ne savais pas de mon père. Bon, c'est un peu abstrait. Peut-être après, on peut revenir, on peut expliquer pourquoi.
Si vous m'autorisez, votre père quitte la Roumanie avant la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Il vient en France. Il hésite pour savoir ce qu'il doit faire. Il prend un bateau. Peut-être qu'il y a une hésitation quant à sa destination finale.
Il n'y a pas vraiment une hésitation parce qu'aller au nord, aller aux États-Unis, c'était plus cher. Alors, il savait qu'il aurait voulu aller vers le nord, mais c'était vraiment plus cher. Alors, l'option B, c'était le bateau qui allait vers Brésil, Montevideo, Buenos Aires. Et l'hésitation, c'était à quel moment je descends. Et pour lui, tout ça, c'était plus ou moins la même chose. Rio, Montevideo, Buenos Aires. Mais comme je raconte un peu dans le roman, à l'époque, il vivait à Paris. Et au moins, je me méfie des histoires de mon père, toujours. Mais l'histoire qu'il racontait, c'était qu'à l'époque, il achetait à Paris une gommine pour les cheveux qui s'appelait Argentum. Un truc comme ça, c'était la marque. Et qu'alors, au moins, ce nom Argentine lui disait quelque chose. Et peut-être aussi parce que c'était la fin du voyage. Et peut-être qu'il s'est dit aussi, bon, et si je fais le voyage, je le fais jusqu'au bout.
Le terminus.
Le terminus, c'était vraiment le terminus. Ça lui donnait plus de temps pour apprendre la langue. Parce que finalement, il a appris la langue au bord du bateau, en plus. Et il a appris la langue avec un voyageur qui était, selon mon père, d'origine libanais. Et alors ça aussi, je le raconte dans le roman. Quand il descend dans le port de Buenos Aires, il parle espagnol avec les B et les P arabes. Alors il dit bájaro au lieu de pájaro, mais parce que son maître d'espagnol, c'était ce monsieur-là. Bon, en tout cas, je raconte un peu, c'est pas que ça, mais je raconte un peu, je mélange deux, trois histoires dans Un père étranger. Et il y a l'histoire de mon père. Et j'étais convaincu vraiment d'avoir tout mis, tout raconté d'avoir bouclé un épisode de ma vie. Et quelques mois plus tard, un ami, un très bon ami, m'envoie comme cadeau le dossier que mon père avait présenté vers 1950 pour se naturaliser argentin. Et là, dans ces dossiers qu'il a dû présenter devant l'État argentin, il ne pouvait pas mentir. Alors, tout ce que mon père avait effacé, tout ce que mon père avait caché de son passé, son nom de famille, l'adresse exacte de la naissance, de la maison natale, même des infos qu'il voulait dissimuler ou brouiller un peu, comme le nom du bateau, le jour exact de l'arrivée du bateau au port de Buenos Aires, tout ça était documenté dans ce dossier. Et là, j'avais l'adresse exacte de la maison natale de mon père. Et c'est vrai que j'avais pas le courage. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas aller dans la ville natale de mon père, qui est Galatz ou Galati, presque la frontière avec la Moldavie et la fin du Danube. Et quand j'ai eu l'adresse exacte, je me suis dit bon. Et là, il y a une invitation à voyager. Et c'est pour ça que cette inversion du titre, un fils étranger, c'est moi cette fois l'étranger dans la ville natale de mon père.
Alors, si vous me permettez, vous avez utilisé les termes mensonge, vous avez marqué une certaine prudence vis-à-vis des récits de votre père que vous avez recueillis. Je crois qu'on peut dire que votre père, une fois installé en Argentine, a voulu s'inventer une nouvelle vie.
Mais en fait, mon père est descendu de bateau et quand il a dû passer la douane, on lui a demandé nom et prénom, il a déjà menti. C'est-à-dire que je pense que la décision a été prise même peut-être avant d'arriver au port du Havre en France, mais sinon pendant les deux semaines de voyage. Cette décision a mûri dans sa tête. Mais dès qu'il descend, il donne au douanier un nom de famille faux. C'est qu'il parle aussi d'un autre monde, non ? Où on pouvait balancer des infos comme ça. Maintenant, on a des codes QR pour entrer dans un café. Et lui, il invente son nom de famille comme ça. Il passe et il redevient Monsieur Berti.
Alors, ce qui est intéressant pour nous qui sommes passionnés par la littérature, c'est que Un père étranger, si je vous ai bien lu, dans un premier temps, vous écrivez quelque chose comme un roman qui concerne Conrad. Et c'est dans l'écriture de ce roman que, en fait, vous butez contre l'histoire de votre père. Je dis bien contre l'histoire, hein, comme quand on bute contre le réel, vous butez contre l'histoire de votre père. Et là, vous apercevez ce que vous saviez déjà, qu'il y avait du non-dit, qu'il y avait du mensonge, qu'il y avait une réinvention.
Oui, j'avais besoin d'écrire l'histoire de ma famille, j'avais envie et besoin d'écrire l'histoire de mon père. Je sentais qu'il était très romanesque, mais je ne le faisais pas. De la même façon que je n'allais pas à Galati, je n'écrivais pas ce livre-là. Je pense que je ne le faisais pas pour plusieurs raisons. Pudeur, sans doute. Peut-être je sentais que je n'étais pas encore mûr ou préparé pour le faire. Et peut-être aussi mon goût. Quand j'ai commencé à publier des livres, j'étais plutôt quelqu'un qui croyait à une idée plus pure de l'invention littéraire. Après, je me rendais compte à chaque livre que je publiais qu'il y avait 10 000 choses personnelles sublimées, et même au-delà de ce que je soupçonnais. Je pensais être en train d'écrire de la pure fiction et je retrouvais des éléments de l'histoire de ma famille plus tard. Mais c'est vrai que je ne le faisais pas. Je pense que je suis arrivé à un cul-de-sac. Et le cul-de-sac, c'est un livre, un roman à moi qui s'appelle « Le pays imaginé ». Qui est un faux roman chinois où la narratrice est une fille. Je dis toujours que c'est comme un roman antipode. C'est tout le contraire à moi. C'est une histoire qui se déroule au début du XXe siècle, dans un petit village de la Chine, racontée par une petite fille chinoise. Si je voulais fuir de l'écriture autobiographique, je pouvais aller pas plus loin que ça. Et alors, je me mets à écrire le livre suivant, sans trop savoir ce que j'étais en train de faire. J'ai lu dans un livre publié par Jessie Conrad, la veuve de Joseph Conrad, qui était 20 ans plus jeune que Conrad, après la mort de son mari. Elle était anglaise. Elle écrit un livre qui parle de son mari. Et il y a 2 ou 3 épisodes qui me frappent énormément, surtout le moment de la lune de miel. Conrad, le marin, l'homme, le loup de la mer, il décide de passer la lune de miel en France. Et alors, du moment où ils ont pris le petit bateau qui va faire le trajet Dover-Calais, Conrad a le mal de mer. Ça commence pas bien. Il arrive dans un état épouvantable en France et il est malade. Alors cet homme qui est un inconnu absolu pour Jesse, il a de la fièvre et il se met à délirer en polonais, ou en tout cas dans cette langue que Jesse croit que c'est du polonais. Elle ne sait même pas. Alors cet homme est un mystère, cet homme se met à délirer en polonais. Elle ne parle pas le français, elle est le comble de l'étranger, elle, dans ces moments. J'étais très... Ça prend quelques lignes seulement de... C'est une page de sa biographie, de son livre. Mais j'étais frappé par cette histoire. Et il y a une autre histoire aussi que je me suis dit, je pourrais les mélanger. C'est l'histoire d'un lecteur. Et là, je regarde Maxime. C'est l'histoire d'un lecteur que Jesse raconte, qu'un homme, un Allemand, appelé Mien, M-E-E-N, a lu une nouvelle de Conrad qui s'appelle Falk ou Folk, F-A-L-K. Et dans ces petites nouvelles, il a vu qu'il y a un personnage et il est convaincu que ce personnage, c'est lui. Parce qu'il a eu une vie de marin avant, cet homme appelé Mien. Il est convaincu qu'il a connu Conrad dans sa vie de marin, que Conrad s'est inspiré de lui pour cette nouvelle, et en plus qu'il se moque de lui dans cette nouvelle. Bon. Il y a trois choses. D'abord, j'ai lu la nouvelle, et c'est difficile à dire que cette nouvelle se moque de n'importe qui. Mais bon, lui, il est convaincu de tout ça. Et alors, il va au sud de l'Angleterre, Pentfarm, tuer Conrad, carrément.
Et il le dit.
Il le dit. Il le dit. Il le dit tellement qu'on commence à se méfier, parce qu'il le proclame même.
Oui.
Voilà. Et Jessie l'apprend, la femme de Conrad, et essaye de ne pas dire ça à Joseph pour ne pas l'inquiéter, à Conrad. Et ça aussi, c'est 20 lignes de la biographie de Jessie. Et c'est un très mauvais lecteur, mais très fascinant. Ouais, ouais. Et alors, voilà, je me suis dit, peut-être que je peux faire quelque chose avec tout ça. Et dès que je me suis mis à écrire, j'ai compris que le modèle de famille de Conrad est même un peu... On laisse Conrad l'écrivain de côté, mais l'homme qui a changé de langue, qui a changé de pays, qui s'est marié avec une femme 20 ans plus jeune, qui a changé son nom, parce que Conrad n'était pas Conrad. Son nom de famille, ça commence avec un K et c'est très compliqué à prononcer. Mais comme mon père, Conrad a utilisé son prénom et a transformé un de ses prénoms comme nom de famille. Et là, quelque chose s'est libéré.
On est pas très loin d'un procédé, deux procédés qui nous ramènent du côté de l'Oulipo. On a un sujet
oui,
source.
Mais oui.
On a un sujet source. Conrad, la trajectoire, ce lecteur, et le travail que vous faites à propos de Conrad, et à partir de là, de cette source, vous allez vous attaquer
oui,
au récit de l'histoire de votre père.
Moi, quand j'ai compris tout ça, je me suis mis à créer un roman très très différent. Les premiers jets n'étaient même pas un roman. Je ne savais pas où j'allais. J'avais besoin d'écrire ça. Au début, j'ai pensé que ça allait donner une longue nouvelle. Et quand j'ai compris tout ça, j'ai vu même la forme. C'est-à-dire, je me suis dit, ici, il y a une forme qui m'intéresse. Je vais mélanger, et ça a été le point de départ, un chapitre de ce roman qui parle de Conrad et un chapitre de ce qu'on pourrait appeler, pardon, d'utiliser un mot en anglais, le making of ou les coulisses. Alors on voit l'écrivain, qui est mon double, en train d'écrire, de trouver les informations sur Conrad et de buter contre son père tout le temps. C'est son père qui apparaît tout le temps et il y a l'histoire de Conrad. Mais bien sûr, cette chose tellement rigide qui a été le point de départ, qui était, pour reprendre ce qu'on disait avant, les structures de base où les mots étaient l'échafaudage. Bon, ça a commencé à être poreux, et pour moi, c'était plus intéressant dès que ça devenait poreux. Oui.
J'ai l'impression, en vous écoutant, que ce que vous restituez de votre parcours est en prise directe avec ce qu'on a évoqué au début de l'après-midi, dans la mesure où j'ai l'impression que votre trajectoire dans Un père étranger pour aboutir ensuite à Un fils étranger, c'est une trajectoire qui me fait penser précisément à Pérec et à W.
J'ai beaucoup pensé à W pendant l'écriture d'Un père étranger. Au début, non. J'étais très inconscient de ce que j'ai fait. Même je ne savais pas que j'allais écrire un roman. J'ai pris des décisions au fur et à mesure. Une décision que je reviens après, mais une décision supplémentaire qui a complété la forme du roman. Mon père avait commencé à écrire un livre avant de mourir. Et c'est le moment où... Et ça a été en même temps que moi, je suis venu en France. Et je dis un peu dans le roman, c'est le moment où on a changé de vie. Moi, je suis devenu l'étranger. J'ai compris ce que c'était d'être étranger. Et lui, il est devenu un peu l'écrivain. Il a compris un peu ce que c'était d'écrire. Et j'ai décidé... Ce roman, il n'a pas fini. Mais après sa mort, j'ai trouvé 6 cahiers avec les manuscrits du roman. Et j'ai pris la décision de glisser à trois reprises à l'intérieur du roman des extraits du roman de mon père. Mais... pas textuellement. Je me suis glissé et j'ai écrit avec lui.
D'une manière oblique ?
D'une manière oblique, bien sûr. Et aussi, oui, je me suis glissé. On ne sait pas qui est l'auteur de ça. Mais au fur et à mesure que j'étais un peu de plus en plus conscient de la forme et de ce que j'allais faire, j'ai beaucoup pensé à W, bien sûr. Et c'est un de mes livres préférés de Pérec. Et cette idée un peu de deux histoires qui... ces pendules, c'est mon mouvement pendulaire qu'il y a chez W entre ces deux histoires. Ça m'a toujours intéressé et passionné. Et aussi, je pensais à comment je suis arrivé obliquement, finalement, avec des aides supplémentaires, à parler de des choses liées à ma biographie et à la vie de famille. Ouais.
Alors, peut-être, justement, vous recevez de la part d'un ami des documents, et cela va changer d'abord vos connaissances quant au parcours de votre père. Il y a des secrets qui disparaissent puisque vous avez les documents, et vous allez éprouver le besoin d'aller en Roumanie, d'aller à Galatie.
Oui, finalement, c'est très curieux. Après avoir publié Le Pays Imaginé, le roman chinois, j'ai compris que, en fait, mes premiers romans, c'était une suite des Pays Imaginés, et que peut-être le tout premier Pays Imaginé était la Roumanie de mon père. Et que peut-être tout ça venait de là. Et que, surtout parce que mon père ne parlait pas le roumain. On parlait avant d'héritage et de comment on reçoit.
On a parlé de transmission.
De transmission, c'est ça le mot. Et mon père a brouillé tout ce qui était la transmission. Non seulement il a brouillé tout ce qui était la transmission de la langue roumaine et du passé roumain, mais même de son côté juif. C'est-à-dire que il n'y avait aucune transmission, et surtout dans un monde où mon père disait « je suis roumain », mais il ne racontait rien, il y avait le rideau de fer, et il n'y avait pas Google Maps, bien entendu, il n'y avait rien. Alors je pouvais rien faire sauf inventer ce pays de mon père. Et de la même façon qu'après avoir publié Le Pays Imaginé, je suis allé vraiment en Chine et j'ai écrit un livre de ce voyage-là. C'est un peu ça, mais avec ma propre histoire. Je suis allé voir ce pays imaginé, voir ce pays, de cette ville d'origine de mon père. Mais les choses ne sont jamais tellement simples parce qu'entre-temps, un siècle est passé, Ceausescu est passé, deux guerres mondiales ou une guerre est passé, mon père est né en 1914, on pourrait dire deux guerres mondiales sont passées, et alors ce que j'ai rencontré, c'est sa ville natale et n'est pas en même temps sa ville natale, les deux.
Vous avez rencontré une ville dans laquelle, me semble-t-il, vous avez perçu l'épreuve du temps, l'effacement des signes. Je dis cela parce que ce livre que je recommande est bizarre, si vous m'accordez cette expression. Il est bizarre dans la mesure où, à l'intérieur du livre, on trouve des QR codes, et vous proposez à vos lecteurs de visualiser des photographies que vous avez prises, des lieux, de la rue, de la maison, etc. Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez éprouvé ce besoin d'offrir la possibilité à vos lecteurs de visualiser les photographies que vous avez prises?
Alors, je pense que de la même façon qu'un fils étranger est un peu l'extension d'un père étranger, je voulais installer l'extension du fils étranger ailleurs. Et alors, il y a cette extension qui est les images que le lecteur peut regarder ou pas, d'abord. Je peux lire le texte de la fin parce que je pense que ça s'explique pas mal. Les QR codes ressemblent aux empreintes digitales qui dessinent notre identité. Ce n'est pas pour cette raison que je les ai mis dans ces pages. Pas seulement pour cela, en tout cas. Je suis un lecteur indécis. Parfois, j'aime les livres qui comportent des illustrations. D'autres fois, il me semble qu'elles entravent le meilleur de la littérature, la liberté d'imaginer, de compléter, d'inventer par-delà l'auteur. Chaque lecteur a ici, par conséquent, le choix de regarder ou de ne pas regarder ce que je voulais montrer, de le voir même au moment où il le voudra, au moment et même au dosage qu'il le voudra. Et si, au bout d'un certain temps, après un moment d'imagination, le lecteur regarde ces images, il aura reproduit à petite échelle mon propre voyage, puisque durant des dizaines d'années, Galatie fut pour moi un mystère à décoder. Je laisse au lecteur la possibilité aussi d'imaginer d'abord et de constater après ce que ça a été un peu mon parcours. Et aussi, je sentais que c'était... Je pense que la plupart des lecteurs, s'ils font ça, de consulter le QR code, ils vont avoir dans leur portable la photo. Et c'est presque la même chose que j'ai eue. C'est comme un cercle qui se ferme.
Une sorte de mise en abîme.
Oui.
Ma dernière question, Eduardo Berti. Je n'ai pas lu tous vos livres. J'ai lu d'autres livres que Un père étranger et un fils étranger. J'ai lu plusieurs de vos nouvelles. Certains de vos textes me donnent à penser, à tort ou à raison, que vous êtes un héritier de cette grande littérature argentine où l'on commence par la nouvelle, on poursuit avec le roman, etc. Bon, vous vivez en Europe maintenant depuis longtemps. On peut comprendre que vous ayez été intéressé, séduit, peut-être intrigué par l'Oulipo. Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles, à l'Oulipo, on s'est intéressé à vous ?
Oui, j'ai des idées, mais je pense qu'il faut demander ça aux Oulipiens. Ce que je peux raconter, c'est que j'étais assez jeune à Buenos Aires, et il y avait au centre-ville, à l'Alliance française de Buenos Aires, qu'Hervé connaît parce qu'il a animé un atelier d'écriture à l'Alliance française de l'avenue Cordoba de Buenos Aires, je sais ça. Il y avait une librairie de littérature française. Et bien sûr, je connaissais déjà Calvino, c'était un de mes écrivains phares, mais je ne savais même pas qu'il faisait partie de l'Oulipo. Et j'avais déjà lu, et j'avais vu en plus une adaptation théâtrale des exercices de style de Queneau. Mais je ne connaissais que ça. Et un jour, je vois un des deux livres de l'Oulipo, Les Clés, je pense. Non, le tout premier, La littérature potentielle. Édition de poche à Buenos Aires, et je l'achète. Et là, j'étais ébloui. Et je me souviens d'avoir passé des jours à jouer OS plus 7, etc., à m'amuser avec tout ça, comme un fou, avec ma copine de l'époque. Et là, bien sûr, ça m'a conduit à Pérec, ça m'a fait relire Calvino, relire Pérec, Queneau et tout ça. Mon deuxième roman s'appelle Madame Wakefield. En espagnol, ça s'appelle La Mujer de Wakefield, la femme de Wakefield. Et j'ai eu cette idée plus ou moins à cette époque. Je pense que peut-être les lectures des textes de l'Oulipo m'ont aidé à arriver à ça. Dans ce roman, je reprends une nouvelle très très connue d'un écrivain américain qui s'appelait Nathaniel Hawthorne, qui était un grand ami de Melville et qui était le modèle pour Edgar Allan Poe de sa théorie de la nouvelle. Et dans cette petite nouvelle de Hawthorne, qui était une des nouvelles préférées de Borges et qu'il cite dans sa liste de précurseurs de Kafka, parce que Borges a la même idée que l'Oulipo. Il parle aussi de plagiat par anticipation dans cette théorie de Kafka et ses précurseurs. Et il dit que cette petite nouvelle de Hawthorne est une nouvelle qui annonce Kafka. C'est l'histoire d'un homme qui dit à sa femme « Chérie, je dois partir en voyage d'affaires », mais il part pour 20 ans s'installer en face de chez lui, voir son absence, voir le monde sans lui. Et en plus, c'est très borgésienne la nouvelle, parce que toute l'histoire est racontée dans le premier paragraphe, et après il y a des ruminations un peu de Hawthorne, de l'auteur. Et moi, je me suis dit, et si j'écrivais l'histoire du point de vue de la femme, et si la femme, elle était plus au courant de ce que Hawthorne insinue, bon, et si de la même façon que Hawthorne a pris une nouvelle journalistique et l'a amplifiée en 10 pages, moi, je prends la nouvelle de Hawthorne et je l'amplifie dans un roman, et moi, d'une façon très innocente, je dis, c'est bon, c'est un peu oulipien, parce que je ne vais pas toucher l'histoire de Hawthorne. Je la respecte comme un architecte qui arrive dans une maison et n'a pas le droit de toucher les murs porteurs. Bon, ça, je le respecte. Mais je m'incruste, je m'installe, j'essaye de varier le point de vue et de farcir un peu le texte. Bon, ça, c'était... Et d'une façon, presque avec un peu d'honte, à l'époque, j'ai dit, c'est bon, c'est un peu oulipien. Voilà. Et je pense que c'est ça et d'autres choses qui ont intéressé ou attiré l'attention de l'Oulipo. Mais ça, il faudrait leur demander. Moi, je peux parler de mes rapports avec l'Oulipo et avec l'œuvre de l'Oulipo, bien sûr. Oui.
Nous leur demanderons. Si vous en êtes d'accord, Eduardo, nous allons peut-être suspendre notre dialogue et nous allons demander à Maxime Decoux de nous présenter ses réflexions qui vont concerner Hervé Le Tellier. Alors, Maxime Decoux est professeur des universités. Il est en poste à Aix-Marseille, à l'université d'Aix-Marseille, qui n'a pas changé de nom, qui n'en a pas pris un nouveau. Et je ne me suis pas trompé une fois sur trois. À vous, Maxime.
Voilà, donc j'ai intitulé cette intervention « Hervé Le Tellier, devenir un autre mode d'emploi » et j'espère que l'auteur ici présent ne verra rien à redire à tout ceci. Alors, devenir un autre, vaste programme, et pour le réaliser, une des solutions les plus commodes est assurément de s'inventer une fausse identité en se lançant dans une carrière d'imposteur. Alors, l'imposture, on le sait, est une attitude qui consiste à tromper autrui au sujet de faits, de paroles, d'objets ou même de sa propre personne. Or, ce qu'il faut noter, c'est que dans une fiction, les assertions qui sont produites ne peuvent pas relever directement du mensonge et donc de l'imposture. En fait, les énoncés dans une fiction s'affilient plutôt à ce que Jean-Marie Schaeffer appelle une feintise ludique partagée, c'est-à-dire un état dans lequel le lecteur sait en toute connaissance de cause que les énoncés sont faux, mais où il accepte de faire comme s'ils étaient vrais. En tout cas, on comprend que la fiction se retrouve en quelque sorte amputée d'une possibilité, celle de mentir. Et il y a là une situation qui a toujours gêné les écrivains qui se sont efforcés de trouver des dispositifs pour faire mentir le texte ou du moins pour prendre au piège leurs lecteurs, pour transformer les impostures racontées dans les intrigues en impostures réalisées par le texte lui-même. Or, Hervé Le Tellier n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de berner ses lecteurs. L'une des grandes questions qui traverse son œuvre est justement celle du devenir autre, des manières pour changer d'identité, parmi lesquelles l'imposture occupe une place de choix. Et dans cette perspective, deux écrivains sont essentiels pour lui, Georges Perec, dont il a été question aujourd'hui, mais aussi Romain Gary. Alors, chez Perec, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'imposture est un thème central. Les imposteurs foisonnent et les textes même peuvent tromper les lecteurs, en particulier Un cabinet d'amateurs, sur lequel je reviendrai, et 53 jours. Chez Romain Gary, l'imposture est tout aussi importante, si ce n'est qu'elle est toujours reliée au désir de devenir un autre, avec des personnages qui sont volontiers des personnages de transformistes, en quelque sorte, qui vivent sous des fausses identités comme Lady L ou Gengis Khan. Un désir de ne pas être soi, de se réinventer, qui a d'ailleurs abouti, on le sait, à l'invention d'un deuxième auteur, Émile Ajar. Alors, ce qu'on peut d'abord noter, c'est que les clins d'œil à Perec et à Romain Gary, chez Hervé Le Tellier, sont nombreux. Alors, je prends deux exemples très rapidement. Dans L'Anomalie, dernier roman d'Hervé Le Tellier publié en 2009, Lucie a la bonne idée d'emporter dans sa valise un volume de la Pléiade Romain Gary. Une allusion éminemment signifiante dans un roman qui porte justement sur la question du dédoublement identitaire. On découvre aussi des interrogations au sujet d'un personnage d'écrivain dans L'Anomalie, sur lequel je reviendrai, et on peut lire ceci. Pourquoi marcher à l'ombre de Perec? Pourquoi ne s'affranchit-il jamais des influences des figures tutélaires? Pourquoi, quand il ne craint pas d'être un imposteur, n'est-il qu'un gamin en quête d'adoubement? On voit ici que c'est l'imitation et l'influence qui peuvent donner à l'écrivain le sentiment d'être un imposteur, de ne pas avoir d'identité propre, parce qu'il chaparde ses mots chez les autres. Et c'est donc bien à la confluence de ces questions l'imitation, l'influence, l'imposture, que la question du devenir autre doit être posée. Alors ce mode d'emploi pour changer d'identité, je vous propose donc de le découvrir en nous plaçant en quelque sorte quasiment aux deux extrémités de l'œuvre d'Hervé Le Tellier à l'aide de deux exemples. D'abord, Le voleur de nostalgie, un roman publié en 1992, qui figure parmi les premiers textes d'Hervé Le Tellier, un véritable chef-d'œuvre que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Et puis, L'anomalie, donc à l'autre bout, publié en 2019 et couronné du prix Goncourt. Alors, Le voleur de nostalgie, pour commencer. Alors, c'est un roman qui a pour personnage principal un homme qui rédige, donc c'est son activité principale, des chroniques gastronomiques dans un hebdomadaire français. Alors, ces chroniques se présentent en fait comme des récits d'enfance ou des souvenirs dans lesquels une recette est racontée et réalisée. Alors, ces chroniques sont signées d'un pseudonyme italien, Giovanni d'Arezzo. L'intrigue est lancée lorsque Giovanni, alors que j'appellerai Giovanni 1 ou Giovanni de Paris, vous allez très vite comprendre pourquoi, lorsque Giovanni reçoit une lettre expédiée de Florence et signée d'un certain Giovanni d'Arezzo. Se met alors en place un échange épistolaire entre les deux hommes, dans lequel le Giovanni de Florence commente les textes culinaires du Giovanni de Paris, ce qui permet d'ailleurs d'y repérer assez vite des éléments étranges, peut-être des anomalies, pour reprendre un terme devenu cher à Hervé Le Tellier. Le Giovanni de Florence, on le constate assez vite, n'est pas un simple lecteur de chroniques gastronomiques. Il est finalement un lecteur suspicieux qui met le lecteur réel sur la piste d'une possible imposture et qui l'engage à une lecture que je qualifierais volontiers de paranoïaque. Paranoïa qui va prendre de plus en plus d'importance. Et en effet, cette situation de dédoublement accède assez vite à des proportions exceptionnelles. Parce que, n'ayant pas les coordonnées de son mystérieux interlocuteur, Giovanni de Paris, alors l'histoire est un peu compliquée, j'espère que vous me suivez, hein. Giovanni de Paris a rédigé sa lettre de réponse en 3 exemplaires et il l'a expédiée à 3 Giovanni d'Arezzo, dont il a trouvé l'adresse dans l'annuaire. Et à partir de là, le jeu identitaire confine au vertige, puisque Giovanni de Paris entretient une correspondance avec 3 de ses homonymes, un de Florence, un autre de Bologne et un autre de Pise. Alors chacun de ces 3 Giovanni va fournir à Giovanni de Paris, en se confiant à lui, une sorte de réservoir de souvenirs dont celui-ci se saisit pour rédiger aussi bien ses chroniques gastronomiques que ses lettres aux autres Giovanni. Le premier Giovanni est donc celui qui suscite chez les autres le retour de souvenirs, ce qu'on peut appeler des anamnèses, comme on les trouve chez Proust, si ce n'est que chez Proust, elles sont involontaires. Et en fait, on se tient bien dans une situation qui a quelque chose de proustien, puisqu'elle associe la mémoire et les sensations, en particulier les sensations gustatives, mais qui est dédoublée ici par la possibilité de l'imposture, le désir du devenir autre et une relation ludique avec le lecteur. Cette dimension toute pérequienne est d'ailleurs visible dans une association récurrente qui fait des souvenirs et des aveux de véritables pièces de puzzle. Alors en tout cas, Giovanni 1 chaparde bien chez les uns et chez les autres des éléments. Il fait en quelque sorte circuler d'un Giovanni à l'autre des parties d'identité qu'il a volées jusqu'à brouiller les identités en place. Se dit ici le fantasme d'une réinvention complète de soi et de l'autre, et qui passe par l'écriture des lettres, par l'écriture des chroniques. Et on comprend bien que Giovanni est une figure de l'écrivain et de son imposture créatrice. Mais la singularité du texte est que ce premier Giovanni, lui, ne se livre pas aux autres. Et le lecteur comprend peu à peu que Giovanni invente ses souvenirs, et on se trouve donc face à une sorte de jeu de miroir complexe, de jeu des différences, très fréquent chez Pérec, comme dans Un cabinet d'amateurs, où la toile qui s'appelle Un cabinet d'amateurs reproduit en fait d'autres tableaux en miniature en y introduisant de minimes différences. De même dans 53 jours, qui repose sur des textes qui sont mis en abîme, donc qui se reflètent les uns dans les autres, mais qui se déforment à chaque fois. Et c'est bien ici un jeu des différences qui se met en place entre les Giovanni, si bien que la posture du lecteur, enfin, le lecteur est obligé de revêtir en quelque sorte une posture d'enquêteur et le roman épistolaire prend bien des allures d'investigation, presque de polar, qui incite le lecteur à mener l'enquête. Le voleur de nostalgie est donc un roman où le vrai et le faux se mêlent sans cesse, et ce d'autant plus que, en tant que récit épistolaire, comme les liaisons dangereuses, il n'y a pas de narrateur pour garantir la fiabilité des énoncés qui sont produits. En fait, le roman associe des textes de nature très différentes. Nous avons les lettres échangées entre les Giovanni, où le mensonge est toujours possible, les récits de recettes, où les souvenirs sont souvent dérobés, et puis des carnets de l'auteur, qui sont une sorte de journal où Giovanni de Paris s'exprime pour lui-même. Et de ce fait, seuls ces carnets semblent pouvoir être le lieu d'une sincérité. On se demande en effet pourquoi Giovanni s'y déguiserait, puisqu'ils ne sont pas censés être lus. Il n'y a pas de destinataire à ces carnets. Mais en même temps, le lecteur peut difficilement se détacher du soupçon que le texte a construit, d'un doute généralisé qui l'amène à se demander si Giovanni de Paris, est véritablement capable de sincérité, y compris dans ses propres carnets. Et on peut donc avoir le sentiment que si Giovanni ment même dans ses carnets, c'est assurément qu'il est un menteur invétéré, mais c'est peut-être aussi que l'objectif du récit est finalement de tromper le lecteur, d'être lui-même un texte imposteur. Et de ce fait, le lecteur se demande si ce Giovanni 1, qui semble tirer toutes les ficelles, ne pourrait pas lui-même être la dupe d'une imposture. Et les signes de ce renversement se multiplient peu à peu jusqu'au dénouement qui repose sur un coup de théâtre sur lequel je ne dirai rien pour ne pas spoiler, comme on dit en bon français, le texte. Je vais juste me contenter de mentionner quelques indices. Alors, par exemple, lorsque Giovanni de Pise écrit une lettre à Giovanni de Paris qui est en réalité un pastiche des propres lettres de Giovanni de Paris. On voit bien que l'imitateur est imité, signalant que le trompeur risque bien d'être trompé. D'autant que Giovanni de Pise révèle aussi à Giovanni de Paris qu'il a pastiché beaucoup d'autres textes dans ses lettres, et y compris la description d'un tableau qu'il a dérobé à un cabinet d'amateurs de Pérec. Un vol qui est donc éminemment signifiant. Alors de surcroît, on apprendra à la fin que l'intrigue est en réalité basée sur un jeu, le jeu militaire auquel on jouait durant la guerre franco-prussienne de 1870, un jeu qui comporte des pions noirs et blancs qu'il s'agit de déplacer. Or, on le sait, hein, l'imposture est fréquemment associée au jeu. On peut penser à Carte sur table d'Agatha Christie, La vie mode d'emploi de Pérec, Le château des destins croisés de Calvino, La défense Lougine de Nabokov, pour n'en citer que quelques-uns. En tout cas, on a bien là, dans Le voleur nostalgie, un moment qui correspond à la révélation des contraintes et du principe du livre, peut-être l'échafaudage, dans un jeu auquel Giovanni, mais aussi vous-même, lecteur, avez donc dû jouer, mais sans en connaître les règles. Voilà qui invite à relire le texte pour prendre conscience de la manière dont ce jeu a peut-être informé l'ensemble de l'intrigue et dont il a permis de manipuler une victime qui n'est autre que le lecteur. Alors, à l'autre bout de l'œuvre d'Hervé Le Tellier se tient l'Anomalie, un roman qui présente un certain nombre de points communs et de différences avec Le voleur de nostalgie, et on pourrait presque se livrer à un jeu, là encore, des sept erreurs. Alors, deux mots d'abord sur les exergues du roman. Une citation en exergue qui est empruntée à Chuang Tzu, qui rappelle le point de départ d'un roman de Raymond Queneau, Les fleurs bleues, par l'entremise d'une parabole célèbre, alors qui n'est pas citée directement, mais qui éclaire la situation des personnages. Alors, en substance, cette parabole peut se résumer à ceci. Chuang Tzu rêva qu'il était un papillon. Il ne savait plus s'il était Chuang Tzu qui rêvait qu'il était un papillon ou s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Chuang Tzu. Donc, la situation ici est celle du rêveur rêvé, du brouillage des frontières, situation dont ont joué aussi bien Borges, Lovecraft que Cortazar, et qui est déjà... qui donne déjà le ton, si vous voulez, au roman. Deuxième citation en exergue, qui là alertera le lecteur suspicieux ou paranoïaque, dont je suis. Citation extraite d'un texte mystérieux que je ne connaissais pas. Un roman, où, enfin, il n'est pas précisé au niveau de l'exergue, en tout cas un texte qui s'appelle L'Anomalie, d'un certain Victor Mizel, qui laisse donc planer chez le lecteur suspicieux, dès le début, le doute sur l'existence d'une œuvre et d'un écrivain fantôme, qu'on trouve notamment chez Borges, chez Queneau, chez Nabokov ou encore chez Pérec. Alors, L'Anomalie, c'est en fait un roman que je dirais choral, c'est-à-dire un roman qui va suivre un très grand nombre de personnages qui ne sont pas directement reliés les uns avec les autres. Et dans cette perspective, l'écrivain Victor Mizel, donc cité en exergue, mais qu'on va retrouver en fait assez vite parmi les personnages, contemple à un moment donné d'autres protagonistes et il éprouve l'envie de raconter leur existence. Et c'est à cette occasion qu'il se demande, en mettant en abîme le projet même du livre, je cite Victor Meisel, « Trois personnages, 7, 20, combien de récits simultanés un lecteur consentirait-il à suivre ?» Tel est bien le défi de l'anomalie, à l'anomalie que je qualifierais volontiers de roman, ou romance, avec un S, sous-titre que j'emprunte, que je chaparde à la vie mode d'emploi de Pérec, que Pérec avait appelé sous-titré roman avec un S, puisqu'il suit l'existence et raconte l'histoire de très nombreux personnages, dont qu'il unifie par un lieu unique, l'immeuble. Et chez Hervé Le Tellier, dans l'anomalie, c'est un avion qui joue en fait ce rôle. Alors, toute la première partie est en effet constituée de chapitres qui sont de prime abord indépendants, et chacun raconte l'histoire de différents personnages qui n'ont pas de lien véritable entre eux, hormis le fait d'avoir pris le vol du 21 mars 2021 entre Paris et New York, vol secoué de très fortes turbulences, et qui pour certains semble se présenter comme un instant de rupture dans leur existence, sans qu'on sache véritablement pourquoi. Le moment des turbulences dans l'avion est d'ailleurs décrit dans un chapitre qui est intitulé « La lessiveuse », titre tout à fait incongru, mais dont le sens s'explique en réalité plus tard, lorsqu'on comprend que ce moment dans l'avion est celui qui lessive, qui blanchit, qui va changer l'existence des personnages. Or, on observe, enfin en tout cas le lecteur suspicieux peut le noter, ou paranoïaque, qu'à la fin de la première partie, certains chapitres introduisent des nuances par rapport à ceux du début de cette première partie, puisque le vol en question ne semble pas s'être déroulé tout à fait à la même date. Détail anecdotique peut-être, mais à la première lecture en tout cas, mais qui prend sens plus tard. En tout cas, il y a bien une anomalie, donc non seulement dans ce vol, mais aussi dans les dates. Et c'est ensuite qu'on apprend, alors je suis désolé, j'espère que vous ne voudrez pas, je suis obligé de raconter quand même un petit peu le roman sans raconter la fin. C'est ensuite qu'on apprend qu'un deuxième vol a eu lieu, alors en juin et non pas en mars. Vol secoué lui aussi de fortes turbulences et qui a été rigoureusement identique au premier, c'est-à-dire qu'il comportait les mêmes passagers et le même équipage. Un événement s'est produit au cours duquel l'avion a en quelque sorte été dupliqué. Mais les passagers du vol de mars ont continué leur existence jusqu'en juin, si bien qu'ils ne sont plus exactement identiques à ceux du deuxième vol. Les protagonistes existent de la sorte en deux exemplaires, à la fois identiques et en même temps différents. Tout porte donc à penser que le vol en question, le vol de l'avion, est une sorte de vol des identités. Et alors que le voleur de nostalgie explorait de son côté le fantasme du devenir autre par l'écriture, l'anomalie se centre plus précisément sur un devenir autre qui passe par un dédoublement à l'identique, produisant de la différence. Et donc, comme dans le voleur de nostalgie, c'est bien un jeu des différences qui se met en place. Les passagers du vol de juin sont retenus à leur descente de l'avion, les passagers du vol de mars sont parfois recherchés, ils seront appelés de leur nom en ajoutant March ou June. Une partie de l'intrigue se passe aux États-Unis pour les différencier, comme les Giovanni dans le voleur de nostalgie pouvaient être différenciés par la ville d'où ils écrivent. Et d'ailleurs, le texte évoque, au sujet de la comparaison des enregistrements réalisés avec la caméra de surveillance dans les deux vols, je cite, « un jeu des 7 erreurs ». Donc, jeu des 7 erreurs qui a commencé, en fait, pour le lecteur dès la première partie, et ce, alors même qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, puisqu'on cherche des points communs entre ces trajectoires différentes de personnages. Et d'ailleurs, l'Incipit lui-même laisse assez vite soupçonner qu'il sera question de changement d'identité, puisqu'il raconte l'histoire d'un des futurs passagers. Donc, c'est vraiment le tout début du roman, un homme qui est un tueur à gages et qui vit sous une fausse identité qui se fait appeler Blake. En même temps, il mène en fait deux vies parallèles, une vie de tueur à gages, et puis je ne sais pas si tous les tueurs à gages vivent comme ceci, mais une vie officielle, sous le nom de Joe, et je cite ici le texte, pour Jonathan, ou Joseph, ou Joshua. On voit donc que même dans cette vie officielle, il y a incertitude du nom, de l'identité, avec ici certainement, Hervé Le Tellier me dira si je me trompe ou pas, un clin d'œil à quel petit vélo, à guidon chromé au fond de la cour de Pérec, où le personnage principal a un nom tout à fait incertain pour à peu près tout le monde, Caratruc, Carachose, Caramachin, il n'arrête pas de changer au cours du récit. Et puis le deuxième personnage dont on suit l'histoire, au début, c'est le dénommé Victor Meisel. Un écrivain confidentiel qui n'a jamais percer, mais à propos de qui le lecteur vigilant notera cette minime différence par rapport à celui qui était cité en exergue. Victor s'écrit avec un O et non un O barré, caractère un peu norvégien, je ne sais pas, comme celui de l'exergue. Et donc, petite anomalie, et après le vol de Mars, Miesel prend d'ailleurs cette décision, la décision d'écrire son septième roman, qu'il s'appelle L'Anomalie. Il se suicide juste après, et ce texte sera un incroyable succès qui change du tout au tout le statut de l'écrivain Victor Miesel. De ce fait, L'Anomalie semble bien accomplir à sa manière le rêve du voleur de nostalgie, mais à une échelle bien plus vaste, avec beaucoup plus de personnages. Si ce n'est que le phénomène se réalise ici, non pas volontairement et en passant par l'écriture, comme dans le voleur de nostalgie, par l'écriture et l'imposture, mais involontairement par un phénomène inexplicable. Phénomène toutefois qui n'est pas dénué d'affinité avec la littérature. Alors on peut notamment s'en rendre compte dans un chapitre de la première partie qui détaille la mise au point, après les attentats du 11 septembre, d'un rapport sur le trafic aérien recensant toutes les possibilités de dysfonctionnement. Ce sont deux jeunes mathématiciens, Adrian Miller et Tina Wang, qui sont chargés de le rédiger et qui y ajoutent un protocole pour, je cite, « cas n'obéissant à aucune situation » qu'ils appellent le protocole 42, qui jouera un jour un rôle important dans l'intrigue. Cet épisode renvoie en fait, me semble-t-il, de manière figurée à l'écriture elle-même, et plus exactement à l'écriture oulipienne, basée sur ses contraintes, sur la règle et sur ce que l'on appelle le clinamen, c'est-à-dire ce moment où l'écrivain peut faire entorse à la contrainte. Et l'une des questions du roman, qui revient de diverses manières, est bien celle du hasard, de la probabilité, de l'improbable, de comment calculer et maîtriser ce hasard. Alors pour conclure, on pourra dire que ce programme que la réussite de ce programme de réinvention de soi par l'écriture semble concrétiser ou s'actualiser, s'achever en la figure du romancier qu'est Victor Miesel, lequel, écrivant son premier roman à succès, L'Anomalie, semble avoir prolongé la réinvention de soi jusqu'à Hervé Le Tellier lui-même. Tandis que Romain Gary s'était réinventé grâce à Émile Ajar, Hervé Le Tellier change d'identité ou de statut en même temps que Victor Miesel pour devenir, avec L'Anomalie, un écrivain à succès. Reste toutefois qu'il a réussi à le faire en restant le même, en creusant toujours plus les pouvoirs de transformation de la littérature qui étaient déjà puissamment à l'œuvre dès Le Voleur de Nostalgie. Je vous remercie.